Radio Cassette, la bande son des 90s.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des albums qui ont marqué les 90s. Dans cet épisode, on va vous parler des petits quepons de Green Day. En 94, après plusieurs années dominées par le grunge, sort Dookie, le troisième album des Californiens de Green Day, mais le premier à rencontrer un succès massif. Leur formule est simple. Un cocktail survitaminé de punk rock, de mélodies efficaces et concises, le tout servi concentré en moins de 3 minutes avec des textes simples et acides. Sur Dookie, les tubes s'enchaînent de Welcome to Paradise à Longview, en passant par When I Come Around, She et bien sûr Basket Case. Un Grammy et 15 millions d'exemplaires vendus plus tard, Dookie est devenu un putain de classique. On ne compte plus le nombre de groupes de punk à roulettes qui ont été influencés par cet album, comme Blink-182, Sum 41 ou Fall Out Boy. Green Day n'a jamais renié ses origines modestes et resté toujours fidèle à ses engagements et à ses convictions et a gardé les pieds sur terre. Une véritable conscience américaine. Dookie, on en parle tout de suite maintenant avec la Dream Team Radio Cassette. Fanny.
Salut.
Olivia.
Hello.
Et Grégoire.
Salut la compagnie.
Et aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous un mec qu'on adore, qui est en plus un gros fan de Dookie. Please welcome David Castello Lopez.
Applaudissements. Bienvenue, David.
Ça fait plaisir, on a l'impression qu'on est 60.
Bah écoute David, c'est trop cool que tu sois là. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es journaliste et l'auteur de chroniques géniales sur les origines des choses, sur la RTS notamment.
Oui.
Tout à fait, il parle à mon cœur, n'est-ce pas?
Mais oui, parce que la radio de RTS, ça veut dire Radio-Télévision Suisse.
C'est ça.
Donc voilà, c'est normal.
Et comme tout le monde le sait, je suis la caution suisse de cette émission.
Et c'est aussi à toi qu'on doit le tube viral Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, c'est une histoire de fou ça.
Oui, c'était assez fou cette histoire parce que c'était vraiment. Moi, je mets des petites chansons dans mes épisodes. Ça faisait 15 secondes, c'était pour illustrer un principe économique. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur TikTok et je crois que ça a fait 100 000, il y a eu 40 000 reprises, 100 millions de vues en tout. Avec des gens qui savaient même pas que en fait c'était un cours d'économie au départ. Juste, bah ouais, ils ont pris complètement au premier degré. Et voilà, bah, c'est un peu rigolo. Ouais.
Et on va se retrouver bientôt en concert dans toute la France.
C'est notre premier TikToker au micro de Radio Cassette.
TikToker malgré lui.
Allez, au sommaire de cette émission, on va retrouver Olivia. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler d'un bibliobus et d'une bataille de boue géante.
Ok, et toi Greg, tu vas nous parler de quoi?
Moi je vais vous parler d'un préampli Marshall de 1959 à l'origine du son de Dookie, vous allez voir, vous allez kiffer.
Mm-hmm. Tiens, tiens. Oh,
ça c'est vraiment bien ça, ouais. Moi j'adore quand c'est précis.
Et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
Pour parler de bande dessinée underground et de cinéma gay.
Ok, alors montez le son, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious, c'est parti.
Left hand on his own. It makes me wonder. have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Myself. You and me had such wonderful times when I'm all by myself.
Alors voilà pour les 15 titres de Dookie. Et ouais, il y a un track caché, 15 titres. Alors c'est le troisième album de Green Day. Il sort le 1er février 94 en vinyle, cassette, CD sur le label Reprise, une filiale de Warner Music. On en parlera tout à l'heure. Alors très grosse année, hein, 1994. C'est l'âge d'or du rap et du R&B, bien sûr. Et c'est une période de transition pour le rock. Le grunge, lui qui est à son apogée, perd tristement son leader. Bye bye Nirvana. On découvre la Britpop, coucou Oasis, le rock indus, coucou Nine Inch Nails, et le néo-metal, coucou Korn, et bien sûr le revival punk, coucou Green Day. Voilà. Alors on retrouve la même année aux côtés de Dookie sur les bornes d'écoute de la Fnac, Punk in Drubical de NoFX, le Ill Communication de Beastie Boys, Stranger Than Fiction de Bad Religion, et bien évidemment Smash de The Offspring. Mm-hmm. David, check, tu es fan aussi.
Oui, oui, Offspring et Green Day, c'était les... Les deux mamelles de mon goût du punk. Ouais.
Alors, on va commencer par faire un petit tour de table et rebobiner vos souvenirs. Ça vous évoque quoi, Green Day ? On va commencer par toi, David.
Alors moi, ça m'évoque tout à... vraiment le moment où j'ai appris l'existence de Green Day. Et c'était bien après que l'album est sorti. C'était en 97, en juillet 1997. Je m'en souviens très bien parce que je savais où j'étais. Je sais où j'étais. J'étais en camp de vacances en Angleterre, dans une école dans la banlieue de Londres. Et j'avais des camarades du monde entier qui étaient là. Et il y avait un monsieur norvégien qui était là et qui s'appelait Oliver. Non, il était danois. Il s'appelait Oliver Sjölin.
On l'embrasse, il nous écoute.
On l'embrasse. Je suis ami avec lui sur Facebook depuis 15 formidable. Ans, mais je ne lui ai pas adressé la parole.
C'est l'occasion.
Et Oliver, il m'a dit genre, mec, Green Day, vraiment, c'est ma vie. C'est genre ce que j'aime faire dans la vie, c'est juste me mettre sur un canapé et écouter Green Day. Et il m'a fait écouter. Et j'ai immédiatement été fan. Et c'était Dookie. Et ça m'a vraiment profondément marqué. Et ensuite, j'ai acheté l'album et je l'ai écouté en boucle pendant plusieurs mois. Quoi.
Excellent, excellent. Toi, Olivia, c'était quoi comme souvenir ?
Alors moi, j'ai pas de souvenir aussi précis. Je me souviens juste que c'était vraiment les musiques des mecs pendant les booms.
Ah
c'était
ouais.
ce que voulaient passer les mecs.
Les mecs relous, qui passaient leur grosse musique un peu
voilà.
lourde. Et les filles,
peux pas danser.
Ah non !
Lever les yeux au ciel en faisant ah là là,
oh
les lourdingues.
Là là. On disait pas lourdingues, mais.
c'était déjà ringard à l'époque.
Voilà.
Ouais.
Ouais. Okay.
Je crois que même en 1960.
Ouais, c'était ringard.
Trop batte.
Trop batte.
Toi, Greg, du coup, quel souvenir des booms ou pas ?
Oh là là, non, pas de boom, mais par contre, qu'est-ce que j'étais fan. En fait, c'était l'époque où je commençais la guitare. Donc, j'avais acheté le livret où il y avait toutes les tablatures, toutes les paroles. Donc, je voyais des mots comme masturbation et tout. Je me disais, waouh, ça a l'air trop. J'adorais, j'avais le poster dans ma chambre. C'était mes premiers produits dérivés de groupe. J'étais allé en voyage à Londres et j'avais trouvé un t-shirt Green Day. C'était, je pense, mon premier t-shirt de groupe.
Il était noir avec Green Day.
Exactement.
Écrit en vert,
exactement.
Si. Est-ce que tu mettais de l'eyeliner un peu ou pas ?
Non, j'étais pas émo.
Faux fan.
Parce que c'était un peu une transition. J'étais aussi fan de grunge, mais fan de Green Day aussi. Voilà. Mais sinon, mon souvenir le plus précis, c'est qu'en CM2, à la fête de mon école, j'ai joué Basket Case devant les parents avec un petit ampli et ma Fender Strat mexicaine.
Okay.
Et voilà, et je suis dégoûté. J'ai demandé à mon père s'il avait encore la vidéo en VHS. Il savait pas où elle était, malheureusement. Too bad. Oh sinon, je vous aurais passé le son direct, on se serait bien marré.
Mais elle va réapparaître.
J'espère que ça va
c'est
réapparaître.
Obligé. On va faire une descente chez tes parents, on va la retrouver.
Donc voilà, mon souvenir, c'était ça.
Ouais, bon, Greg est un gros fan. Alors mon anecdote, c'est que je me souviens très très bien de ton poster, en fait. Greg, quand je l'ai connu, c'était en sixième. Et en fait, c'était derrière la porte de ta chambre, t'avais la pochette de Green Day en grand format portrait. Et moi, je trouvais ça hallucinant parce qu'on était en sixième et en fait ce que tu voyais sur la pochette, je veux pas spoiler la partie de Fanny, mais t'étais quand même des trucs qui étaient pas trop pour des gamins et moi jamais j'aurais eu le droit de mettre ça dans ma
Je pense que du coup le côté cartoon faisait que à mon avis ils faisaient pas trop attention quoi, les parents. Je pense et après fallait aller voir dans le détail, mais bon c'est ça reste bon enfant.
Dessiner des bites au crayon de couleur ça va parce qu'elles sont
en fait, très très franchement ça reste bon enfant. Ok, t'as une seringue, ok, t'as un singe qui fait caca, enfin c'est pas non plus, enfin ça va quoi.
Ouais. Fanny, du coup quel souvenir pour toi?
Alors, en 94, aucun. Moi, j'ai connu Green Day 10 ans plus tard, en fait, avec American Idiot et puis les deux tubes Boulevard of Broken Dreams et Wake Me Up When September Ends. J'étais au lycée. Alors, c'est marrant, hein, mais tous mes années collège, j'ai aucun souvenir de Green Day particulièrement. Après tant d'années rap R&B, je me suis mise à écouter un peu de rock, un peu de pop, et puis à ce moment-là, je sais pas, dans ma tête, je l'associe à des trucs comme The Calling, Wherever You Will Go, et puis il y avait Boulevard of Broken Dreams, et j'écoutais ces trucs-là, voilà.
Allez, on va maintenant remonter un peu dans le temps, aux origines du groupe, avec toi, Olivia, et ouais, désolé, David. Alors, dis-nous, depuis quand ça existe, Green Day ?
Alors, Billy Joe Armstrong naît à Oakland, en Californie, en 72. Il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Son père est chauffeur routier et fan de jazz. Il est d'ailleurs batteur à ses heures perdues dans une petite formation locale et se produit régulièrement dans les bars du coin. Sa mère, elle, est serveuse et fan de country. Les débuts discographiques du petit Billy Joe commencent en 77. Alors qu'il n'a que 5 ans, son professeur de musique le pousse à enregistrer « Look for Love ».
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look for love. 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 When everything seems to go wrong and you need somebody strong with a smile and a song. Look for love, and when you're not having much fun, and the day is never done, until you do find someone.
look for love, look for love,
look for love,
and when you find love and give all your love, success and happiness too will be for you.
On est sur un niveau de mignonnerie très 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 élevé quand même là. C'est trop chou.
Et sans doute son papa qui joue derrière.
Certainement.
Moi ça me fait un peu peur cette musique, personnellement.
Non mais c'est génial, donc il a 5 ans, c'est un enfant star en
mais
fait.
Mais ça me fait penser à Björk dont on a passé
ou à Jordi.
Je pense que Björk elle chantait juste quand même à son âge, non?
Oui, là il y a des
petits... je suis méchant.
Pas toujours.
Il a 5 ans.
Non mais il a 5 ans.
Donc sa première tournée d'artiste consiste en de petits concerts avec son père dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Mais son premier gros choc musical aura lieu 4 ans plus tard, très précisément le 17 avril 81, lorsque ses deux frères l'emmènent voir le film des Ramones, Rock'n'Roll High School. C'est décidé, il sera guitariste.
It's 1980. Welcome to Rock'n'Roll High School.
Rock'n'Roll High School?
Do you want to stay there?
Billy Joe a 10 ans quand il perd son père. Sa mère se démène pour joindre les deux bouts, elle finit par se remarier, mais le courant ne passe pas très bien entre les enfants et le nouveau beau-père. Billy se réfugie dans la musique et passe des heures sur sa guitare. À 11 ans, il rentre au collège et croise le chemin d'un gamin blond, tout maigre, qui nourrit la même passion que lui. Il s'appelle Michael Ryan Pritchard, mais plus tard, il choisira le pseudo de Mike Dirnt. Billy Joe et Mike deviennent très vite inséparables. Nous sommes en 86, ils ont tout juste 14 ans et ils décident de former leur premier groupe qu'ils baptisent Sweet Children. Ils sont de moins en moins assidus en cours et passent la majeure partie de leur temps à faire de la musique.
Et à 18 ans, le duo Sweet Children part vivre dans un squat à Berkeley, le 924 Gilman Street.
Alors ce lieu, c'est un peu quand même... Un haut
c'est,
lieu de culture.
C'est le QG. C'est
voilà,
le QG,
c'est le QG
punk.
Ouais, c'est vraiment la, c'est une sorte de communauté un peu coopérative punk. C'est aussi le siège de Maximum Rock'n'Roll, un journal alternatif très réputé qui a juré de ne jamais publier un article sur un groupe signé sur une major.
Bouh.
C'est nul. Mais le Gilman est surtout un formidable lieu de vie que l'on, où l'on peut échanger des idées, participer à des forums. On y trouve aussi quelques chambres d'appoint pour les ados en détresse, tels que Mike et Billy Joe. Pour Mike et Billy Joe, l'urgence est de monter un vrai groupe, mais il manque un batteur. Keith Mayer rejoint les Sweet Children sous le pseudo de Al Sobrante.
Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre des faux noms, là?
Et ce Keith Mayer va jouer un rôle en fait primordial dans la formation du groupe puisqu'il est de loin le plus expérimenté et qu'il a lui déjà un bon réseau quoi.
Alors, il est notamment ami avec un certain Lawrence Livermore, figure de proue de l'underground local et propriétaire de Lookout Records. Lawrence est emballé par ce qu'il voit sur scène alors qu'il n'y a que 5 personnes dans le public. Il sent d'emblée le potentiel du jeune groupe. Il l'expliquera dans une interview au magazine Entertainment Weekly.
Ils jouaient comme s'ils étaient les Beatles au Shea Stadium. C'était seulement leur 3e ou 4e concert, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse un disque avec ces gars.
Merci.
Ça, c'était une citation de... d'un article sur eux. Voilà.
Livermore est engagé pour s'occuper de leur promo et veut les faire signer sur son label qui est devenu le label de l'East Bay, donc la baie de San Francisco. C'est vraiment le label sur lequel il faut être. Entre novembre 88 et janvier 89, porté par un très bon bouche à oreille, le groupe se produit régulièrement sur la scène du Gilman. Le trio ne tarde pas à devenir une valeur montante de la scène punk locale. On va écouter tout de suite un extrait de Dry Ice, enregistré en 89 au Gilman.
Break.
Waouh, c'est carré, hein. Franchement, là, ils envoient déjà la pâtée. Alors, ça commence à bien marcher pour eux, mais c'est précisément à ce moment...
toujours un peu faux, quand même.
C'est leur patte, c'est leur patte. Ouais. Hein.
Ils sont en formation, les petits gars. Donc, ça, c'est précisément à ce moment-là qu'ils vont décider de changer de nom. Ils vont plus s'appeler Sweet Children.
Alors, exactement, selon eux, Sweet Children, doux enfants, si je traduis dans le texte, ça fait un peu trop sage, c'est un peu trop gentil. En plus, il y a un autre groupe de punk plus ancien qui, eux, s'appellent les Sweet Baby, et on les confond souvent. Donc après tergiversation, ils choisissent le nom de Green Day en hommage à l'une de leurs chansons qui célèbre les jours passés à glander devant la télé en fumant de l'herbe. Un peu comme ton pote David, j'ai l'impression. Hein.
Oui. Enfin, on avait quand même 14-15 ans, donc je sais pas s'il fumait tant que ça. Non, je pense que c'était un
il glandait juste sur le canapé.
C'était un peu un peu comme moi, mais un petit puceau, vous voyez, qui vivait par procuration des trucs de fou avec le punk. Ouais. Voilà.
Quelques mois plus tard, Liv Morr, qui a bien perçu ce qui est en train de se passer autour du groupe, leur fait enregistrer un nouveau disque. 39 Smooth sort au début de l'année 90. Tout va bien pour Green Day, mais pas de bol. Le batteur Keith Mayer, qui vient d'arriver, décide de se barrer parce qu'il veut poursuivre ses études. Et c'est un autre batteur, très cool, qui va le remplacer. Bon, très cool, c'est pas son vrai prénom. En effet, c'est un pseudo. En fait, il s'appelle Frank Edwin Wright, troisième du nom. Mais tout le monde l'appelle très cool à cause de sa nonchalance naturelle.
Il est vraiment très cool ou very cool?
Très cool, très cool.
Très cool.
Très cool.
Très cool.
C'est peut-être l'influence mexicaine, je sais pas.
Cool.
Très cool.
Bien sûr, Greg. Alors, c'était très cool. D'ailleurs, c'était en fait le batteur des Lookouts, le groupe de Lawrence Livermore. Et c'est assez marrant parce que les mecs ont quand même 26 ans d'écart.
Absolument. Pour la petite histoire, le père de Très Cool va même aménager un vieux bibliobus qu'il reconditionne en bus de tournée.
Le bus magique.
C'est ça. Ils installent des couchettes, des racks de rangement pour les instruments. Frank Senior va aussi devenir leur chauffeur officiel. Et très vite, le véhicule devient un membre à part du groupe. On fumait tellement d'herbe, raconte Mike, que vu de derrière, on aurait dit une théière fumante. Un jour, une femme l'a même pris pour un vrai bibliobus, mais elle a vite déchanté, on imagine.
Attends, question teubé, c'est quoi un bibliobus?
C'est des bibliothèques ambulantes
tout
qui s'arrêtent dans les endroits et les gens
comme
peuvent...
Comme le nom
d'un
mic, okay.
C'est un mot suisse, ouais. Non, c'est pas un mot suisse. Vous
non,
dites
non,
ça
c'est
dans votre
pays. C'est pas non plus,
mais ça n'existe
pas,
pas dans votre pays.
C'est pas comme table, quoi.
C'est pas le mot que t'emploies tous les jours.
J'ai jamais vu de bibliobus, par exemple.
À part chez Miyazaki, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Oh là là, mais moi, le bibliobus, il s'arrêtait dans mon école quand j'étais petite.
Mais non, c'est parce que t'étais loin dans la campagne, non?
Non, mais en Suisse, donc c'est on a passé en France. Ah,
la jeunesse de Oli, c'était un peu Heidi.
Ouais.
Avec les tresses et les vaches.
C'est ça.
Bon, alors revenons à nos moutons. On est en 92 et Green Day sort son deuxième album, Kerplunk.
C'est un peu la folie, ils sont très vite dépassés. La presse underground se répand en éloges et la tournée débarque dans la foulée. Les voilà de retour en Europe et leur notoriété va grandissante. Ils deviennent les nouvelles stars de l'underground punk californien. Relayés par un excellent bouche à oreille, ils se vendent 55 000 copies en quelques semaines. Un score assez conséquent pour un album indépendant et sans le moindre dollar de publicité. Au fil des années, Kerplunk va s'écouler à plus de 4 millions d'exemplaires et deviendra l'album indépendant le plus vendu de tous les temps.
Pas mal, les gars.
On s'écoute un petit extrait ?
Avec grand plaisir.
Allez, c'est parti. She's 2,000 light years away.
Il y a un truc que je remarque qu'ils font dans leur Green Day quand ils chantent, ils mettent le mauvais, l'accent tonique sur la mauvaise partie du mot. Là, par exemple, ils disent 2000 light years away, comme si c'était avec un accent français. Et j'ai remarqué ça, ils le font, mais tout le temps, ils s'en foutent de l'accent tonique.
C'est intéressant.
C'est des vrais punks, en fait, même dans la langue, en fait.
Ouais, 2000. Mais non, c'est pas comme ça que ça se prononce.
Ouais, mais c'est peut-être.
Ouais, les foufous, les linguistiques sont PLS, quoi.
Mais
ouais,
non, mais peut-être qu'ils s'intéressent effectivement qu'à la musicalité, du coup, ouais, de leur.
En fait,
juste leur
parole. Le truc, c'est que ça choque. Ça choque un peu l'oreille. Je pense que ça choque encore plus l'oreille des gens qui sont plus habitués à parler anglais que
moi. Ouais, ouais, ouais.
Moi, je t'avoue, j'avais pas remarqué.
J'ai une oreille très fine, voilà. Parlez-moi de vous plutôt.
Donc évidemment, vous devinez ce qui va se passer. Attirés par leur réputation et par les bonnes ventes de Kerplunk, tous les gros labels américains en quête de nouvelles sensations viennent faire les yeux doux à Green Day. Il faut être le premier à signer ce groupe punk qui s'annonce comme la prochaine sensation, les prochains Nirvana. Dans la course à la signature, Reprise Records, une filiale du groupe Warner Music, va se démarquer, notamment grâce au directeur artistique, un certain Rob Cavallo. Mais ça, c'est Greg qui va vous en parler.
Oh yeah.
Il signe donc en avril 93. Sauf que vous en doutez, c'est toujours un peu la même histoire. Cette signature du groupe avec une major ne fait pas que des heureux parmi les fans de la première heure, notamment ceux qui traînent dans la mouvance du Gilman et de son journal Maximum Rock'n'Roll, dont la maxime, je le rappelle, c'est aucun article sur un groupe signé dans une major. Les puristes se mettent à cracher sur Green Day qui aurait vendu son âme.
Same old, same old.
Mais c'est vraiment un truc de ouf en fait. Billy Joe disait qu'en fait le punk avait inventé la cancel culture. Parce qu'en fait à partir du moment où les mecs avaient signé sur une major, c'était fini. Les gars n'existaient plus pour toute cette scène originale.
Non, ils ont été totalement bannis. Ils pouvaient plus remettre les pieds au Gilman après.
Ah ouais,
après
c'était
signé,
fini. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment dans le truc punk de signer sur une major. Tu pouvais te faire casser la gueule. D'ailleurs,
C'est un peu parce que c'est une cancel culture à l'envers un peu. C'est quand tu commences à grossir énormément. En fait, les petits
qui n'étaient pas connus.
Ils te jartent. Quoi.
Ouais, personne ne peut être connu en fait.
Mais je trouvais que Green Day avait un argument quand des petits quepons venaient leur dire ouais bande de vendus, leur disaient ouais. Ceci dit, t'aimes les Ramones ? Ouais. T'aimes les Clash ? Ouais. Bah ok, ils ont tous signé.
Ferme ta
gueule, ok ? Parce qu'ils ont tous signé sur des grosses maisons de disques. Quoi. Donc, voilà.
C'est du snobisme en fait. C'est ça qui est du snobisme de la part des petits gars.
C'est ça.
Alors après la signature sur Reprise, le groupe s'attaque à l'enregistrement donc, de leur troisième album, Dookie.
Alors au départ, le disque devait s'appeler Liquid Dookie, ce qui signifie littéralement caca liquide. Mais devant la pression de leur entourage et de la maison de disques, ils ont raccourci en Dookie.
Caca tout court.
À l'écoute des bandes, les dirigeants de Reprise Records comprennent qu'ils tiennent là une vraie bombe. Le label va alors mettre le paquet. 2 mois avant la sortie, les radios et la presse reçoivent le CD. Et très vite, la rumeur enfle. Dès la fin décembre, les College Radio matraquent Longview, le premier single. Le buzz autour du groupe prend à une vitesse folle. Dookie sort le 1er février 1994, d'abord timidement, mais la presse est emballée. USA Today écrit « Fièrement odieux, agressivement immature, le plus bruyant bordel depuis les Clash ». Le LA Times, quant à lui, les compare aux Ramones et qualifie le disque de régressif, mais également jouissif et revigorant.
La classe.
À partir du mois de mars, MTV passe en boucle le clip de Longview. La presse commence à parler du revival du punk, tandis que d'autres inventent le terme de pop-punk pour qualifier leur musique. Si Dookie séduit, c'est que les chansons parlent de sujets comme l'anxiété, l'ennui, l'amour, la jalousie. La vie de millions d'adolescents, en somme. Ce qui fait penser à certains que les fans orphelins de Nirvana se seraient alors spontanément tournés vers les Green Day. Et sa révolte rageuse, mais moins désespérée.
Ouais, mollo mollo, hein, les fans de Nirvana. Quand même.
Je sais que c'est un peu sensible pour toi. La tournée et la promo se poursuivent en Europe et on les découvre sur le petit écran en France dans Nulle part ailleurs.
Ils ont pour nom Green Day, ils viennent de Californie et réactivent un genre qui ne demande qu'à l'être, le mélange de punk dur et de pop. Moyenne d'âge, 22 ans, premier essai transformé avec 3 millions d'albums vendus aux États-Unis. La France risque d'accrocher le wagon et c'est Nulle part ailleurs qu'ils ont choisi pour leur première télé française. Green Day, c'est très très fort. Green Day. Oh.
you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the quit. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up.
Oui, il y a un truc quand même fou, parce que dans cette chanson en particulier, ils sont californiens quand même.
C'est
et
ça,
en fait,
ouais,
là,
ouais.
Ils ont quand même un peu l'accent, ils prennent l'accent british, quoi. Ils disent, ah. You have the time to listen to me whine. Et j'ai l'impression, ils jouent peut-être un petit rôle de cockney californien.
Ça,
quoi.
Ça fait cool, quoi. Ouais. Ouais. Tout en foirant les accents toniques quand même.
Alors dans cette chanson non, mais
est-ce que c'est pas parce qu'il a été aussi beaucoup bercé par du punk britannique et donc
possible.
C'est peut-être ça qu'il
faudrait lui demander directement.
Écoute, ouais, on veut, bah, écoute, je vais l'appeler.
Revers de la médaille de ce succès, en quelques mois, le groupe se retrouve en pleine lumière à gérer une popularité qu'il n'avait jamais envisagée. Quelques années plus tard, avec le recul, Mike Dern commentera ce succès soudain.
Quand nous avons connu le succès planétaire avec Dookie, ça a été un choc, car nous n'étions pas préparés à ça. Du jour au lendemain, nous ne pouvions plus boire un verre dans un bar sans être assaillis par des dizaines de personnes qui voulaient absolument trinquer avec nous, prendre une photo et parfois un petit peu plus. C'était un peu déstabilisant, car très brutal.
Ouais, ça avait l'air d'être déstabilisant, ouais.
C'est trop chiant, les gens, ils veulent tous baiser.
J'en ai marre.
Début juillet, Green Day s'embarque pour une série de concerts avec le festival itinérant Lollapalooza. Il partage l'affiche avec deux poids lourds, les Smashing Pumpkins et les Beastie Boys.
Ah yes. Mais l'événement de cet été 94, ce sont les 35 ans du festival Woodstock. C'est un concert géant pour la paix qui est organisé les 13 et 14 août.
Au programme, les Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Alice in Chains, Nine Inch Nails, Metallica, sans oublier les vétérans de la première édition, Joe Cocker, Carlos Santana, entre autres.
Ça vend du rêve.
Pour bien comprendre la suite des événements, parce que ça va vous plaire, il faut avoir en tête quand le moment où Green Day a signé le contrat pour Woodstock et le moment où le concert se déroule, le statut du groupe a radicalement changé. Ils sont devenus des mégastars. Mais les organisateurs n'ont pas cru bon de revoir l'ordre de passage et Green Day est chargé d'ouvrir la journée de dimanche, ce qui énerve passablement Billy Joe, évidemment. Le groupe décide de jouer encore plus fort et encore plus vite que d'habitude. Il est tout juste midi, il fait à peu près 50 degrés. Quand ils montent sur scène, la foule est extrêmement dense et très très impatiente. Ils sont déchaînés, c'est vraiment la folie. Soudain, un fan a l'idée un peu saugrenue, peut-être provoquée par Billy Joe, de lancer de la boue sur scène pour rigoler.
Oh, lovely.
Yeah, we suggest that you throw mud. That's fun.
Throw mud at each other. See how many stupid things you can do to each other all at one time.
Hey, thanks.
Hey, thanks a lot.
Looks like Dookie from here.
Oh, shit. It's caca. Poo-poo. Shit. It's shit. It's shit. Shit. I hate God. Shit.
Oh, God. Dookie.
Oh, nice shot.
I said each other. Come on.
Anyways, this next song is, it's called, Chump. Go!
I don't love you, but I think I hate you. You're the reason for my misery.
Oh shit, it's caca.
Oui, oui, voilà. On l'a compris, c'est vraiment l'intelligence brutale là, qui est dans sa pleine action. Donc, un fan balance de la boue sur scène, Green Day riposte aussitôt et ça part en bataille de boue géante. Pendant ce gros bordel, Mike Dirt se fait choper par un mec de la sécurité qui pense qu'il est un spectateur qui envahit la scène. Le gars le tabasse et Mike perd trois dents. C'est l'apocalypse. Le groupe doit être évacué en hélicoptère. L'événement fait évidemment la une de tous les JT du soir. On parle de 750 jambes cassées cet après-midi-là. Et leur performance va être vue par des millions de téléspectateurs.
Et parce qu'en fait, tu pouvais mater le concert de Woodstock en fait en pay-per-view. En fait. Déjà à l'époque, tu avais ce système-là. Tu pouvais payer pour mater à la demande ce concert. Ouais. Donc tu pouvais te connecter. Notamment la maman de Billy Joe qui du coup a vu en direct ce concert, qui a halluciné et qui l'a engueulé juste après.
Mais en plus de ces téléspectateurs, il y a ceux qui ont vu donc les images du journal télé.
Ouais.
C'est quand même une des meilleures publicités possibles. Ça va aider Dookie à atteindre le cap du disque de diamant, soit 10 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis.
Pas mal.
Quelques mois plus tard, l'album gagnera le Grammy du meilleur album alternatif. Avec 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Dookie reste en date l'album punk rock le plus vendu de l'histoire.
Et, ouais, et puis un autre fait marquant, c'est que Green Day a rendu le punk finalement accessible à tous. Et pour bien se rendre compte, en fait, Green Day a vendu plus d'exemplaires de Dookie que le premier album des Spice Girls, que celui de Ace of Base, que j'adore, et le Morning Glory de Oasis.
Allez!
Voilà, donc en France, peut-être que c'est pas un carton, mais en tout cas aux US et à l'international, c'est vraiment un truc de ouf. Et alors, en signant sur une major, les gars, hein, ils ont brisé un tabou quelque part, on en a parlé tout à l'heure, après Dookie, les mecs, ils étaient pas super à l'aise non plus, en fait, ils se retrouvaient un peu le cul entre deux chaises, ils savaient plus où ils étaient. Ils jouaient dans des festivals comme un Woodstock, comme un groupe pop devant un public qui ne savait pas trop, en fait, l'histoire du groupe et d'où il venait. Et puis de l'autre côté, il y avait la scène punk de leur début qui leur tournait carrément le dos. Voilà, pas facile.
Pas cool. Je crois qu'ils ont, au fond, ils ont très bien assumé hein, le truc. Ils étaient très contents.
Oui, j'ai envie de dire ça. Là, comme problème.
Non, non, ouais, non, mais
c'est un faux problème.
Ils étaient très contents d'avoir du succès. Ils ont bossé pour ça et c'est ce qu'ils voulaient en fait.
Ouais, ouais. Non, non, mais effectivement, en tout cas, ils ont eu un petit passage pour digérer un petit peu ce succès. Alors, c'est parti maintenant avec toi, Grégoire, pour découvrir les coulisses de Dookie. Et comme souvent, l'histoire commence avec des démos envoyées à plusieurs grosses maisons de disques.
Oui, des démos enregistrées bien à l'arrache sur le magnétophone 4 pistes de Billy Joe Armstrong. 4 chansons sont choisies. Il y a She, Sassafras Roots, Pulling Teeth et FOD. L'une de ces cassettes finit par atterrir sur la console de mix de Rob Cavallo, qui dirige alors une filiale de Warner. Il est devenu depuis son président, pour l'anecdote. Première réaction du producteur fatigué. Ah, encore une cassette. Voilà. Puis il se dit, bah, ce sera peut-être la bonne, quoi. Donc après une grosse journée de travail, de retour dans sa bagnole, il insère cette cassette signée Green Day dans son autoradio et il tombe sur ça.
Voilà. C'est un son qui crachote un peu quand même.
Ça crachote un petit peu. Donc on vient d'entendre un extrait du titre She qui bientôt allait devenir ça. Il y a eu un petit peu de boulot et une collaboration hyper fructueuse entre le trio et Rob Cavallo, passionné de musique punk mais aussi guitariste émérite. Et ça, cela va beaucoup plaire à Green Day qui ne veut surtout pas rater la marche qui va les hisser dans la cour des grands. Et pouvoir compter sur l'oreille experte d'un musicien comme Rob Cavallo, cela n'a pas de prix. Et Cavallo, il avait aussi la particularité de connaître tous les morceaux des Beatles à la guitare. Et lors de leur première rencontre, il a dû prouver à Green Day que la légende disait vrai. L'anecdote est chouette, car il faut savoir que le trio cite notamment comme une influence majeure de la structure des titres de Dookie, Please Please Me, le premier album des petits gars de Liverpool sorti en 1963. Last night I said these words to my girl.
Et merci pour ce petit intermède avec les Beatles. Franchement, c'est ouf parce qu'on voit bien la structure.
Tu vois un peu la parenté.
Bah oui, il y a un truc hyper pop, il y a les chœurs, il y a tout ça qu'on retrouve beaucoup.
Moi, j'ai trouvé qu'on aurait surtout dit du Oasis, hein.
Non, c'était les Beatles.
Non, c'était les Beatles, c'était un petit peu mieux quand même.
Et donc, après avoir fait connaissance avec Rob Cavallo, le groupe entre en studio à la fin de l'été 93.
Oui, ils enregistrent au Fantasy Studios à Berkeley, studio qui ont déjà vu passer le groupe Europe. Je crois que David est fan. Ou encore les héroïnes R&B d'En Vogue. Le groupe valide cet endroit car il est suffisamment proche pour pouvoir s'y rendre à vélo, car les trois garçons détestent la voiture. Les punks. Le planning est très strict. Arrivée midi, départ autour de minuit. Les séances de travail sont hyper intenses. Hein, ça tombe bien, le groupe hors demande. Ils ont trop souvent entendu des histoires d'enregistrement où la maison de disques n'est pas satisfaite du résultat. Et pour Green Day, pas question de se retrouver dans ce genre de situation. Armstrong enregistre le chant de 16 des 17 chansons en 2 jours, la plupart en une seule prise, et en tout l'enregistrement ne dure que 3 semaines. L'album, lui, sera complètement bouclé en moins de 2 mois. Seul le swing un peu particulier du titre Longview donne du fil à retordre au trio. Au final, Rob Cavallo arrive parfaitement à saisir l'énergie folle du groupe et retranscrire cette tension permanente entre mélodie pop et explosion punk qui sert parfaitement les textes Pince sans rire de Billy Joe Armstrong.
Alors, Dookie, c'est un album avec des constructions de chansons très pop, hein, on l'a vu, et tu en as parlé avec les Beatles, et en même temps, il y a un gros son punk. Comment on pourrait en fait définir ce son de Dookie ?
Eh bien, c'est une excellente question, mon cher Manu. Pour le savoir, je vous propose un petit multipiste du titre Welcome to Paradise. C'est parti. Alors on va commencer avec ce son de guitare hein, bien lourd. Toutes les guitares ont été doublées pour avoir plus de puissance, of course.
Est-ce que vous avez assez d'essai ?
Bien sûr. Alors là, on a la basse qui rentre. La base de Matt Dirt, que vous allez noter, assez funky, mine de rien, pour du punk. Cause now it seems that I am out here on my own, and I'm feeling so alone. Elle est assez sautillante. Vous entendez, il y a un effet de foule derrière pour les chœurs. Ça fait un peu un effet live. Et il y a ce même effet sur Basket Case. Un peu comme si on était dans un stade et qu'il y avait cette rumeur. Bon, la batterie, elle est franchement impeccable. Le jeu de batterie, je trouve, est top. Là, on entend batterie et basse. Et après, on va tout entendre en même temps.
Et je joue la basse au médiator. C'est un truc de shake-up.
La batterie a été bichonnée aussi.
Et les sons de foule, c'est des...
Mais ouais, c'est
alors, je sais pas d'où viennent les sons de foule. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Je saurais pas vous dire. Je sais
ça,
pas d'où viennent les sons de foule.
C'est une machine qui fait ça, mais je trouve ça hyper réaliste.
Peut-être qu'ils ont récupéré ça sur des lives. Voilà. Alors, concernant le son de guitare, on va s'arrêter un petit peu sur ça parce que c'est quand même la matière première du son de Dookie. Green Day doit là encore une fière chandelle à Rob Cavallo qui va proposer à Billy Joe d'utiliser ce fameux préampli de 1959 de la marque Marshall. Alors le préampli, c'est vraiment l'élément qui va forger le son de l'instrument. et les réglages de Dookie, Billy Joe va les conserver en live sur la tournée qui va suivre, mais aussi sur les albums qui vont suivre. Je vous propose d'écouter les précisions de Billy Joe Armstrong himself dans cette interview accordée au fabricant de pédales Emixer pour le 25e anniversaire de la sortie de Dookie.
Dookie and Insomniac are they're very heavy and you know we wanted something. We grew up.
Dookie et l'album suivant Insomniac avait vraiment un son très puissant. C'est parce qu'on voulait sonner comme les groupes avec lesquels on avait grandi, comme les Ramones ou les Sex Pistols. C'est quelque chose qui nous a toujours poussé à rechercher la bonne tonalité, le son rock ultime.
Trying to get the ultimate rock sound. It was the first time we had the opportunity to.
Avec Dookie, c'est la première fois qu'on avait le budget suffisant pour expérimenter. Il faut savoir que nos deux albums précédents n'avaient coûté que 2000 dollars seulement à produire.
Plexi Super Lead amplifier known as the Marshall.
Et Rob Cavallo avait ce préampli Marshall de 1959. Il l'a amené en studio, on l'a branché sur ma guitare, on l'a allumé, et le son était génial. On peut dire que le son de Dookie vient principalement.
Alors vous l'avez entendu, un Billy Joe mentionnait un budget cumulé de 2000 dollars pour les deux précédents albums. Dookie, lui, a coûté plus de 100 000 dollars. Oh. À titre de comparaison, c'est un peu plus que Nevermind, et c'est 65 000 dollars, mais cela reste relativement modeste pour un album sorti sur une major.
Mais c'est aussi que quand ça coûte 2000 dollars, c'est que personne n'est payé.
Et ah là, oui, c'est ça.
C'est qu'en fait, dès que tu commences à avoir des gens qui travaillent pour toi, ben en fait, il faut les payer. C'est là que ça va très vite, parce que je ne pense pas qu'ils se sont payés eux-mêmes pour les... Pour les 2000 dollars.
Probablement pas, mais après j'imagine que le temps passé en studio, c'est ça. Effectivement.
La log du studio.
Rien que ça. Ouais.
Alors il reste une dernière étape, maintenant c'est le mix.
Ouais, le mix, Manu, je dirais même les mix, car il y en a eu deux. En fait, Green Day voulait un son hyper sec, sans aucun effet, à la manière du Nevermind the Bollocks, des Sex Pistols ou encore du premier album de Black Sabbath. Mais à l'écoute de ce son un brin austère, la maison de disques va demander un autre mix, beaucoup plus FM, avec une dose raisonnable de reverb pour donner plus de relief à l'album. Et c'est le regretté Jerry Finn qui s'occupe du mix de Dookie, un personnage central dans la nouvelle vague du punk à roulettes adolescent et ensoleillé qui s'annonce, puisqu'il bossera notamment sur des albums de Blink 182 ou encore Sum 41. Hasard, je ne crois pas.
Alors, et c'est marrant parce qu'il sonne cet album comme pas mal de disques de punk de l'époque, de punk à roulettes. Hein. D'ailleurs, on parle de punk à roulettes parce que c'est un truc de skater qui écoute ça. Et David, toi, est-ce que tu as écouté d'autres groupes dans le même genre ? C'était quoi ton profil à l'époque ? Tu nous parlais tout à l'heure déjà de The Offspring.
Je ne sais pas si je vais en préférer l'un ou l'autre. Pour moi, c'était des groupes qui étaient un peu équivalent dans le sens où ils avaient ce truc qui est le propre de ce punk là, c'est extrêmement mélodique, c'est des mélodies très simples, ouais, très enfantines, qui pourraient parfaitement être chantées par des enfants si l'arrangement était différent. Et à côté de ça, il y a la violence de la guitare et la violence du fait que c'est du rock un peu crié, ouais, mais en fait c'est vraiment des mélodies très douces mais énervées dans la façon dont elles sont produites, et c'était ce mélange-là, mais qu'on retrouve, je pense, exactement chez Offspring, et c'est, je pense, ça qui me plaisait beaucoup quand j'étais adolescent.
Mais je pense que c'est pour ça que je pouvais écouter ça quand j'avais 10 ans, en
oui,
fait.
Oui, complètement.
Parce que c'était comme une comptine, en fait.
Mais en fait, c'est pareil pour Nirvana, en fait. Moi, c'est des trucs ultra mélodiques, ultra simples qui restent dans la tête, et en même temps violents dans l'exécution. Quoi.
I disagree.
You disagree.
Allez, on va maintenant s'intéresser à la pochette assez chargée de Dookie. Et c'est pas une petite pochette d'ailleurs, c'est carrément une fresque. Et mon petit doigt me dit, Fanny, que tu as dû t'arrêter sur le moindre détail et que tu as dû t'éclater les yeux, quoi.
C'est clair. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la pochette de l'album Dangerous de Michael Jackson réalisé par Mark Ryden. On en a parlé au tout début de Radio Cassette. Et ben là, j'avoue qu'on n'est pas loin de battre le record de Dangerous niveau détail. Bon, déjà, je vous fais le topo. Olivia l'a dit, Green Day, c'est un groupe originaire d'East Bay, qui est le nom donné à la baie de San Francisco. On est au nord de la Californie, dans un coin extrêmement riche culturellement, qui est le berceau des comics underground. Alors, les comics underground, c'est un genre de bande dessinée qui est apparu dans les années 50-60 aux États-Unis, en réaction au Comics Code Authority, un organisme de censure qui interdisait la représentation de plein de sujets, comme la violence, le sexe, la drogue, ou des trucs encore plus teubés, genre interdit de dessiner des vampires, des loups-garous ou des zombies.
Pourquoi ?
Parce que c'est
moche, c'est violent.
Ça pervertit la jeunesse, monsieur. Et bref, donc en réaction à cette censure, il y a tout un tas de dessinateurs qui se sont mis à faire des BD illégales et à les vendre sous le manteau dans des boutiques hippies de la région de San Francisco. Les artistes les plus célèbres du genre, c'est Robert Crumb, Art Spiegelman, Robert Williams ou encore Gilbert Shelton. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que Gilbert Shelton, c'est la source d'inspiration numéro 1 de la pochette de Dookie. Et plus particulièrement deux de ses œuvres, la série de BD Les Fabuleux Freaks Brothers d'une part et la pochette de l'album Shakedown Street des Grateful Dead d'autre part. Donc baigné par cette culture graphique, Green Day décide que plutôt que de montrer sa gueule sur leur album, ils vont faire appel à Richie Butcher, un artiste et musicien punk de la région qui dessine des fanzines.
Ok, alors je commence mieux à cerner le contexte. Effectivement, cette pochette, elle a tout d'une bande dessinée avec plein de personnages et plein de textes. Il y a plein de petites bulles. Est-ce que tu pourrais nous la décrire ?
Alors oui, déjà la scène prend pour décor la Telegraph Avenue à Berkeley en Californie où Richie Butcher habite. Au premier plan, on voit un singe et plusieurs chiens juchés en haut d'immeubles qui jettent du caca sur les gens qui se trouvent en bas dans la rue. Là, en bas, c'est le bordel. On a une montagne de caca au centre.
Je suis désolée, dès qu'on dit caca, ça me fait rigoler.
Au centre, par-dessus laquelle est écrite Dookie. Au-dessus, on a une marée humaine de personnages issus de la culture pop, parmi lesquels Elvis Presley, Patti Smith, un épouvantail, un homme des cavernes, etc., etc. Se cachent aussi là-dedans des références à Black Sabbath, AC/DC, aux Ramones, à Big Star. Bref, impossible de lister tout, ça serait trop long. Et encore au-dessus de tous ces personnages, on a l'élément principal de la composition qui est une énorme explosion, boum, de la fumée, des flammes qui montent vers le ciel. Et en haut de ce nuage atomique, on voit le nom Green Day écrit en marron. On voit aussi un avion piloté par un chien qui balance des bombes sur lesquelles il y a écrit Dookie. On imagine aisément ce que ces bombes contiennent.
Du caca ?
Par exemple.
Pardon, je voulais le redire.
Je comprends pourquoi c'était un peu foufou sur la porte de la chambre de Greg.
Moi, ça passait pas.
C'est caca à tous les étages.
C'était censuré par le code de la propriété minelle.
À l'arrière de la pochette, à l'origine, il y avait une photo d'une marionnette de la série télé Sesame Street, mais elle a été retirée quelques temps après par peur de se prendre un procès d'une part et par peur que les parents pensent que la pochette de Dookie, c'était un album pour enfants.
Mais je l'ai sous les yeux, là, c'est vraiment, enfin, c'est effectivement un Muppet, mais bon, il est vraiment dans une sorte de pénombre glauque.
C'est le Muppet au milieu du pogo.
Ouais, voilà, il est en train de flammer de ouf.
Je sais pas qui peut confondre ça avec un truc pour enfants.
Ouais, effectivement.
Les Américains.
Ouais.
Tu sais, ils sont un peu limités.
C'est ça, c'est ça.
Mais on adore les amis américains qui nous écoutent, bien évidemment.
Bien sûr. Donc on vient le voir, effectivement, non, hein, la pochette de Dookie, c'est avant tout une gigantesque et joyeuse explosion de caca, et pas du tout pour les enfants.
Alors mais c'est pour ça en fait, tout s'explique, je comprends mieux maintenant pourquoi il répétait poupou, caca, shit sur la scène du Woodstock et pourquoi ça a fini en baston général. Les mecs finalement vont toujours au bout de leur délire, et est-ce qu'il y a du caca aussi dans les clips ?
Alors, heureusement que non, on n'est pas dans un clip de Marilyn Manson. Pardon. Quoique ça aurait pu être drôle, il y a eu 5 singles pour accompagner la release du disque et 3 clips réalisés pour les morceaux Longview, When I Come Around et Basket Case. Et c'est de ce dernier dont je vais vous parler. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Alors, le clip de Basket Case a été réalisé par un certain Mark Kaur, embauché pour le tout premier clip de Dookie. Il va finir par les signer tous et continuer de collaborer avec Green Day longtemps après ça. Dans une interview pour le site Songfacts, Mark Kaur explique que ses inspirations principales pour le clip de Basket Case, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film culte de Milos Forman avec Jack Nicholson, et Brazil, le film culte de Terry Gilliam. Donc, en effet, l'action du clip se déroule dans un asile de fous et le tournage a lieu dans un véritable asile abandonné à Santa Clara, en Californie. On peut voir les musiciens installés dans une grande pièce vitrée. Chacun arrive à son tour, accompagné par des membres du personnel médical. Ils sont rejoints ensuite par d'autres patients qui portent tous des masques difformes. Les autres scènes du clip se passent dans d'autres pièces de l'asile, mais toujours en déclinant scénario qui allie bizarrerie et maladie mentale. Visuellement, il y a une spécificité intéressante, c'est que le clip a été tourné en noir et blanc et ensuite colorisé en post-production avec des tons très saturés. J'ai trouvé sur le site de Songfacts une interview du réalisateur dans laquelle il explique un petit peu ce choix plastique.
Il y a un autre réalisateur qui a fait la vidéo de Heart Shaped Box pour Nirvana qui était colorisée. Et au même moment, il y avait toute une controverse autour de Ted Turner et de la colorisation. J'étais juste tellement à fond sur la dimension dramatique et saisissante de la couleur. J'adorais les comédies musicales de la MGM, j'adorais à quel point une palette de couleurs pouvait être décisive et offrir un rendu non naturel. Donc j'ai voulu coloriser parce que c'est tellement frappant visuellement. Je voulais que lorsqu'une personne zappe entre les chaînes à la télé et tombe sur la vidéo, elle s'arrête en se disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je pense que ça marchait pas mal avec l'idée de ce clip.
Voilà, donc juste pour préciser, le réalisateur d'Art Shape Box de Nirvana, ce n'est autre que l'immense Anton Corbijn, et le Ted Turner dont Mark Kaur parle, c'est un grand patron télé qui a racheté la filmothèque entière de la MGM dans les années 80. Il a décidé de coloriser tous les classiques qui étaient en noir et blanc et ça a causé d'énormes débats aux États-Unis dans les années 80-90. Donc pour conclure sur ce clip que je trouve d'ailleurs très réussi, je fais une mini parenthèse sur un aspect de l'image de Green Day dont on n'a pas encore parlé. En fait, dans ce clip, il y a un plan fixe sur le visage de Billie Joe Armstrong avec des poissons roses, oranges et des yeux verts fluo sur fond bleu turquoise. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. Les couleurs sont très vives et je ne sais pas pourquoi, mais ce plan précis m'a fait penser à l'univers de Greg Araki, un réalisateur que j'aime bien, très actif dans le cinéma queer underground, qui a réalisé par exemple Mysterious Skin, The Doom Generation ou encore Kaboom. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Green Day a influencé Araki ou non, mais toujours est-il que c'est une bonne occasion pour parler de la dimension queer de l'album Dookie, dans lequel certains morceaux parlent ouvertement de sexualité, les questions de masturbation, par exemple dans la chanson Longview, et les questions d'orientation sexuelle dans le morceau Coming Clean.
Et également dans le morceau Basket Case, il dit qu'il est allé voir un homme pute, en fait, et c'est marrant, c'est un homme, c'est pas une femme à ce moment-là.
Ok, marrant. Et donc Billie Joe ne s'est jamais caché d'être bisexuel. Il en parlait notamment dans une interview en 1994 pour le magazine The Advocate. Beaucoup d'adolescents ont trouvé dans les paroles de Green Day à ce moment-là un écho à leur propre question de genre, de sexe. C'est suffisamment rare d'avoir des modèles masculins dans le rock qui assument ouvertement leur appartenance et ou soutien à la communauté gay, donc c'est important d'en parler.
Yes, et ils ont d'ailleurs demandé à leurs copains de Pansy Division de faire toute leur première partie sur la tournée de Dookie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pansy Division, c'est un groupe de punk qui est ouvertement gay, assez marrant d'ailleurs, et qui jouait déjà au Gilman avec eux. Et donc oui, c'est un truc que Green Day assume à fond, et bravo les mecs.
Yes, bravo.
Groupe avec une blague nazie à l'intérieur, c'est pas mal, parce que c'est Panzer Division, je pense que c'est un jeu de mots sur Panzer Division.
Je pense aussi.
Alors c'est le moment maintenant de faire le bilan de Dookie. Et je vais vous demander votre avis. On va commencer par toi, David. C'était comment de réécouter cet album 30 ans, 25 ans plus tard ?
Oui, c'est ça, 25 ans plus tard. Alors, je l'ai réécouté en entier juste avant, enfin, sur le chemin entre chez moi et l'endroit où on est en train d'enregistrer ce podcast, donc dans le 18e arrondissement de Paris. Et donc, j'ai marché. Je suis même resté 5 bonnes minutes de plus devant la porte parce que je n'avais pas fini. Et j'ai pensé plusieurs trucs. Bon, le premier, c'est que... Il y avait un truc que j'avais pas perçu complètement, je pense, quand j'avais 15 ans, c'est que c'est quand même assez ado. Il y a un truc, c'est genre, mais j'en ai marre, mon père il comprend pas, et j'en ai marre, puis je m'ennuie, puis attends, c'est tous des cons. Et il y a un peu cette ambiance-là tout du long de l'album, donc voilà, c'est un peu ado, et donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça me parlait à l'époque, et un petit peu moins maintenant. Il y a un côté un peu immature et volontairement immature, et peut-être même un petit peu cliché d'adolescent là-dedans. Ensuite, il y a le deuxième truc que je me suis dit, c'est pas un truc très positif non plus, c'est que c'est quand même extrêmement répétitif.
Oui,
c'est-à-dire
qu'il y a
un truc, c'est genre, attends, c'est ok, il y a des petites différences, c'est un peu 18 fois la même chanson quand même. Et ensuite, non, mais il y a eu quand même un moment où j'ai été extrêmement ému, c'est que j'ai réécouté donc la chanson au moment où c'était When I Come Around. Et en fait, j'ai l'impression que cette chanson, en fait, elle suffit. C'est que tout ce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire dans cet album, c'est-à-dire des mélodies un petit peu tristes, un petit peu cheesy, tu disais tout à l'heure, mais un peu mélancoliques et en même temps violentes, et en même temps qui swingent un peu et où t'as un peu envie de danser. En fait, toutes les chansons, j'ai l'impression qu'elles veulent faire ça. Elles y arrivent plus ou moins, parfois un petit peu dans le couplet, parfois un petit peu dans le refrain. Et When I Come Around, j'ai l'impression que c'est la chanson qui a vraiment cette chose. Et c'est, à mon sens, c'est vraiment la chanson la plus réussie. Ouais. Et par ailleurs, il y a aussi ce truc que je pense que je l'avais un petit peu oublié. Et genre, vraiment, quand je l'écoutais, ça m'a ramené complètement, mais un peu comme quand on sent une odeur qu'on n'a pas sentie depuis très longtemps.
De Proust.
Mais complètement. Et ça m'a vraiment ramené à mes 15 ans. Et j'ai eu en montant la rue Caulaincourt, un petit peu les larmes aux yeux.
Moi, j'ai une vraie question, c'est que tu parlais des paroles, mais est-ce que tu les comprenais à l'époque, les paroles en anglais? Parce que c'était pas mon cas.
Bah, il était en camp de vacances en Angleterre.
Oui, c'est vrai. Mais... Et en fait, je pense pas. En fait, je pense que j'ai fait attention cette fois-ci. Et à l'époque, je les comprenais pas complètement, puis je m'en foutais un peu.
Oui.
Et en fait, on retient, que je pense, quand on a cet âge-là, on retient surtout la musicalité. Tiens, est-ce que cette syllabe, elle va bien avec le truc, et on se souvient plus du flow général plutôt que du sens des paroles, quoi. Mais je me souviens que mon ami danois, lui, il les connaissait complètement par cœur.
Trop fort.
Et j'avais un peu appris le début de Basket Case par cœur aussi pour frimer. Voilà.
Mais donc ton bilan, c'est que au lieu de faire un album effectivement de 15 morceaux, il aurait pu faire juste un single avec When I Come Around.
Je pense qu'elle, c'est vrai.
Merci, bonsoir.
Je pense qu'il y en a deux. C'est pas la seule qui est bien. Mais en fait, je pense qu'elle suffit parce qu'elle dit un peu tout ce qu'ils avaient envie de faire en une seule chanson. Donc moi, je suis plus pour quand tu peux concentrer quelque chose en moins de durée, en moins de chansons, et ben en fait c'est mieux, ça fait du meilleur art dans l'ensemble.
Voilà. Désolé les gars, Green Neuf, il va falloir revoir votre copie. Fanny, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cet album à la réécoute?
Pas à la réécoute, à l'écoute tout court, parce que c'est un album que je ne connaissais pas, donc découvre aujourd'hui où je ne suis plus adolescente, et je te rejoins totalement, David, dans le fait que c'est très difficile d'écouter ce genre de musique quand tu passais 16 ans, en fait. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le rock, et là, en faisant mes recherches sur Green Day, quand j'entendais que c'était du punk, je hurlais en me disant, mais non! Enfin, non,
donc
désolé.
Toi, tu fais partie de la bande à Gilman, quoi.
C'est de la pop pour moi. Ça, pour moi, c'est typiquement le genre de musique que t'entends dans la BO d'American Pie, quoi.
Oui, bah c'est
pour moi, c'est associé au film pour adolescents des années du tournant des années 90-2000. Tous ces comédies débiles américaines.
Le générique de Buffy contre les vampires.
Avec des
ouais,
mecs.
Ou même, tu vois, le générique de Friends, là. Enfin, ça ressemble à tous ces trucs-là.
Avec des mecs qui boivent de l'alcool dans des gobelets en carton.
Les gobelets rouges, on les cherchait tous, ces gobelets
ils existaient pas dans la vraie vie, en fait.
Si, aux États-Unis ils sont tous comme ça, et c'est juste qu'en France, mais maintenant ils commencent à arriver, quoi.
Donc American Pie, quand j'avais 16 ans, j'adorais, mais maintenant que j'en ai 35, c'est mort. Mais
moi, il y a un truc qui m'a un petit peu, et c'est pour ça aussi que j'ai eu les larmes aux yeux, c'est que ça a tellement cessé d'être cool, cette musique.
Donnez un mouchoir à David.
C'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas ça. En fait, dans une certaine mesure, c'est terriblement ringard.
Oui.
Et le truc, c'est que de l'écouter et de me remettre dans ce bain-là, j'ai réussi à ressentir le fait, à revivre le moment où c'était cool, en fait. Alors que ça ne l'est plus. Et
ça te touchait.
Mais ça me touche encore. Mais j'ai plus de distance. Et surtout, je vois que c'est ringard, en fait. C'est de la musique de papy maintenant, quoi. Maintenant, ce qu'on est les gens écoutent, c'est du hip-hop et du rap, tu vois. Donc ça, c'est les guitares saturées déjà.
Ça marche plus.
Non, ça,
le côté alternatif, ouais.
Le côté le rock est mort. Je suis pas d'accord. Ouais. C'est juste Green Day est mort.
Non, mais c'est même pas. Moi, je trouve pas que le rock est mort, et je trouve qu'il y a plein de trucs bien en rock. C'est juste que ce qui est sur le devant de la scène comme globalement cool, c'est plus du
ça.
Rock, quoi.
C'est plus ça.
C'est plus le truc de masse que c'était à cette époque-là. Et ça, c'est pas un avis, c'est un fait.
C'est un.
Et boum.
Il y a un revival punk. Anglais actuellement avec
Idols, Fontaine Fonte, mais après Idols,
il y en a plein,
Idols,
quoi.
Voilà, ils vendent pas non plus à Merci tour de Manu. Bras, mais et puis c'est quand même pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus écoutable pour nous aujourd'hui que Green Day, quoi.
Mais la roue va tourner, et dans 10 ou 15 ans, sera putain, mais le rap, comment c'est ringard et comment c'est bien ça, quoi. Mais
bien sûr, c'est notre fond de commerce en même temps. Donc,
voilà.
Grégoire, c'était quoi?
Moi, j'ai eu quand même un petit plaisir assez régressif à réécouter Green Day. Alors,
c'est rare tes plaisirs, faut les noter quand même.
C'est vrai que je suis assez dur. T'es
un mec austère, quoi.
Je suis un peu le relou. Je suis un peu le relou de
service,
ce podcast. Généralement, je suis un peu c'est nul. Non, mais là, le truc, c'est que j'ai un tel attachement à cet album. Évidemment, c'est plus ma cam. Évidemment, je vais pas réécouter Green Day. Mais franchement, en le réécoutant, Welcome to Paradise, She.
Ouais, je suis d'accord.
En réécoutant Basket Case,
non, mais tu vas pas
Long
tout
View. Il y a quand même 5-6 morceaux. Et je trouve que l'album aussi, ce qui est cool, c'est que Basket Case, qui est un peu le tube, arrive, je crois, c'est la 7e position.
Ouais.
Et le reste de l'album, la deuxième partie de l'album est presque mieux que la première.
J'suis
et donc, je trouve qu'il y a un bon équilibre, finalement, même si effectivement c'est très répétitif. Que c'est évidemment ringard d'écouter ça aujourd'hui. Voilà, la saturation, enfin, cette saturation-là, c'est vraiment Non, c'est fini, on n'écoute plus ça, on fait, ouais, on fait plus
gêne,
ça.
Ce qui gêne, c'est tous ces gimmicks punk qui sont éculés et que t'as du mal à assumer aujourd'hui.
Ouais,
quoi.
Mais après, ils sont assez bons quand même, hein. Tu vois, ils jouent bien ensemble. Je trouve qu'il y a des breaks qui sont quand même assez intéressants. Rythmiquement, c'est quand même pas dégueu.
Le batteur est excellent.
Le batteur est excellent. Ouais. Et puis sa manière de chanter si particulière de Billy Joe, ça, tu mentionnais, David, cette manière d'accentuer. Et il a une manière d'articuler aussi un petit peu bizarre. Ça accroche l'oreille quand même, je trouve que ça fonctionne bien.
Mais c'est, en fait, je me demande ce qui est ringard dans Green Day, en fait, c'est la guitare électrique, c'est la prod,
c'est toute cette
espèce de couche hyper datée, je pense que si tu joues les mêmes chansons juste doucement, avec une guitare sèche, je suis sûr que ça serait incroyablement moins démodé, quoi.
Ouais, c'est vrai.
T'as des versions acoustiques, de Basket Case, etc.
Bien sûr, je pense qu'il y a eu des reprises, mais je pense que tu as raison.
C'est tous les marqueurs d'époque qui se démodent.
Ils ont pas fait. Est-ce qu'ils ont fait un MTV Unplugged? Ça pourrait intéresser.
Je crois pas. Et toi, Manu, alors qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh ben, écoute, moi, j'en ai pensé plutôt du bien. Parce que moi, en fait, cet album, en fait, je le connaissais pas tellement. Je connaissais vite fait 2-3 singles. Et voilà, bon, au début, je me suis pris un peu un boulet de canon dans la tronche. C'est-à-dire que les morceaux, ils font 3 minutes, ça s'enchaîne, boum, en une demi-heure, t'as plié l'album. Waouh, ça s'arrête jamais. C'est exactement tout le temps le même morceau. J'ai vraiment eu ce sentiment-là, comme toi, David. Et puis, voilà, en fait, en réécoutant une fois, deux fois, puis trois, en fait, tu te rends compte que, en fait, ce son, certes, il me saoule aujourd'hui parce que derrière, j'ai écouté Blink 182, j'ai écouté Sum 41, j'ai écouté plein de trucs comme ça. Et en fait, c'était les premiers à faire ça, quand même. Faut pas oublier que avant ça, ça existait pas, le punk à roulette. Ça a été derrière. Mais
le punk à roulette, s'il te plaît, le nom, quoi. C'est comme le rap à l'eau.
Non, mais Offspring, c'est un tout petit peu avant eux-mêmes. C'est quand même.
Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Mais ça a explosé au même moment, pareil. Et pour moi, voilà, ce son, en fait, moi, je l'ai découvert un peu après. Et en fait, j'ai l'impression de revenir aux sources et de découvrir quelque chose. Donc voilà, je suis très content, en fait, de faire ce travail ethnographique. Après, clairement.
Carrément, quoi.
C'est ringard, on dit que c'est.
Mais on dit ça sur la guitare saturée comme ça qu'il y a dans Green Day. Mais je pense que l'autotune qu'il y a dans.
Ah, c'est clair, ça va vieillir.
Mais dans 10 ans, on va faire. Mais, qu'est-ce qu'on branlait.
C'est déjà horrible.
Mais tout le monde le fait. Ça reste quand même un petit peu à la mode parce que les gens continuent. Alors que plus personne ne met de guitare électrique saturée.
Ça, c'est vrai.
Et je pense qu'on va avoir exactement le même truc avec ce son des années 2010-2020.
C'est sûr. Bon, Olivia, enfonce le clou. Dis-nous ce que
tu as entendu.
C'est Green Day.
Conclu, à toi la conclusion.
Merci. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus que.
Bon, c'est terminé. Avez...
Voilà,
merci.
Merci, bonsoir.
Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends complètement la nostalgie que t'as pu avoir, même si moi-même je la ressens pas parce que c'est pas quelque chose que j'écoutais à l'époque. Moi, j'ai eu le même sentiment que quand on a fait l'épisode sur Red Hot Chili Peppers, où t'as l'impression que c'est un peu l'album, tout le temps la même chanson. Ça m'a fait un peu ce sentiment-là. C'est pas du tout le même genre
Blood
de musique.
Blood Sugar Sex Magic, hein, c'est quand même beaucoup plus varié.
Non, mais les Red Hot, t'as l'impression que ça fait 20 ans qu'ils font le même album, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'es un peu genre encore. Bon, bref, admettons. Mais en revanche, j'ai été vraiment très intéressée de travailler sur le punk de San Francisco. C'est quelque chose que je connaissais pas très bien. Et d'avoir un petit peu à creuser le sujet pour parler de leur origine, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà. C'est donc, tout.
Merci.
Donc, mauvaise musique, mais histoire intéressante.
C'est souvent le cas dans Radio Cassette.
Ça arrive. Mais bon, clairement, on a quoi? On a 35-40 ans autour de la table. On écoute un truc qui est fait pour des minots qui ont 20 ans qui l'écoutent.
Tu veux dire qu'on est vieux?
Est-ce qu'on n'a pas retrouvé finalement l'enfant
qui est en chacun de nous?
Évidemment. Ouais. Bien. C'est beau ce que tu dis. Ouais, wow.
Envoyez vos feedbacks, envoyez vos likes à ce que vient de dire Grégoire. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? C'est le moment de vous prononcer. Voilà, alors on a fait le tour de cet album pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Cassette Crew, avec Fanny,
yes.
Grégoire,
bye bye.
Et Olivia.
Ciao.
Et David Castello Lopez.
Oui. Merci d'être là.
Lopez avec un S parce que c'est portugais et pas espagnol.
Non, mais c'est important et ce sera rectifié. Donc merci David d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir suggéré cet album de Green Day. On peut te retrouver en ce moment dans les origines sur Europe 1, à la radio-télévision suisse dans l'émission Suisse.
Tout à fait.
Également en replay sur Arte dans la série Intéressant qui passe dans 28 minutes.
Mais quand est-ce qu'il dort?
T'as sur Rome.
Vous voyez, mais quand je fais rien, je viens ici.
Voilà. Ah là là.
Alors nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel album. D'ici là, rendez-vous sur notre répondeur cassette. Vous pouvez nous appeler là maintenant, tout de suite, pour nous donner votre avis sur l'émission. Ça se passe au 01 89 16 75 31. Je vous promets, l'appel
c'est
est
seulement 1,50€ la seconde.
Non, j'allais dire que c'était pas surtaxé. Elle écoutait pas. On va d'ailleurs écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Basket Case. Gros bisous et cœur avec les doigts les quepons.
Bye bye.
Bye bye. Bye.
À bientôt. Bisous.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Salut les nostalgiques de cet objet démoniaque qui était la cassette qu'on devait tripatouiller avec des crayons quand on en mettait de la bande partout. Ben, je vous ai découvert il y a peu et ben, ça y est, là avec ce dernier épisode sur Chemical Brothers, j'ai tout écouté. Voilà, du coup là j'attaque la période de ma vie, ben, je vais souffrir pendant un mois en attendant de pouvoir vous réécouter. Voilà, ça va être dur. Bon. En tout cas, vraiment, podcast incroyable, travail incroyable, c'est fou. Vous avez vraiment parlé de plein de groupes qu'on formait et plein d'albums qu'on formait, bah, la personne que je suis aujourd'hui, et mes goûts musicaux, la façon dont je vois la musique, dont je fais de la musique. Vraiment, c'est dingue. Et j'avais jamais remarqué à quel point ces années 90 étaient hyper formatrices et incroyables de richesse. Et voilà, merci beaucoup pour ça. Et cœur avec les bras. Bye.